بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جزاك الله خير بسم الله الرحمن الرحيم وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين شفاعه الإسلام نزل إن شاء الله عز وجل كمبليتي التكوير ce soir avec les versets 24 jusqu'à 29. Et il ne garde pas avarement pour lui, pour lui-même, ce qui lui a été révélé. Donc cela concerne le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa gestion de al-wahi, sa gestion de la révélation. Et ceci, le Coran n'est point la parole d'un diable banni. Et on avait vu dans les versets à partir du verset 19, 20, 21, on a vu que le Coran, c'est la parole véhiculée par l'ange. Jibril alayhi salam, on avait donné des explications que le Coran c'est la parole d'Allah azza wa jal qu'il a confié à l'ange Jibril alayhi salam qui est transmis au prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète alayhi salatu wa salam transmet ses paroles à la umma, à sa communauté, aux sahaba qui étaient avec lui. Et je ne sais pas si vous m'avez précisé que la protection du Coran, on avait dit que le Coran est mahfouz, le sens du Coran est protégé, les paroles, chaque verset est protégé par Allah Azza wa Jal, mais également le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été protégé de l'oubli. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été protégé de l'oubli, et ça c'est un point extrêmement important à retenir, parce que comme on avait expliqué, il y avait des gens, quand on parlait des mustashriqin la dernière fois, les personnes qui étudient la religion dans le but de mieux la combattre, hein. Donc il y a des personnes qui vont étudier la sira, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour essayer de trouver des failles pour pouvoir porter atteinte à l'islam, mais chose qu'ils ne peuvent pas faire. Donc certaines personnes, hein, ils ont parfois dit que voilà, à la fin, dans les derniers moments de sa vie, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était malade, il a oublié certaines choses, et ainsi de suite. Ce que les savants disent de façon unanime, c'est que qabla at-tabligh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais oublié un verset. Comme Allah Rabbul Izzah avait révélé, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alayna jam'ahu wa qur'ana. Donc Allah Azza wa Jalla avait pris la garantie de protéger le livre, mais également de protéger dans le sadr, dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque parole que l'ange Jibril alayhi salam a portée. Parce qu'il y a des fois où c'était surat al-alaq, iqra bismi rabbika alladhi khalaq, ça fait, on va dire, ça fait une page à peu près, on va dire que c'est un petit chapitre. Donc facilement le prophète pouvait retenir, mais parfois c'était des pages et des pages de wahi, des pages et des pages de révélation, et il y a des fois le prophète avait peur d'oublier un verset que l'ange Jibril alayhi salam lui a porté. Mais Allah azza wa jal a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam la capacité de retenir tout ce que l'ange Jibril alayhi salam l'a porté. Donc jusqu'à ce que le prophète transmette aux sahaba, jamais le prophète alayhi salatu wa salam n'a oublié un quelconque verset. Maintenant, une personne peut dire qu'une fois le prophète alayhi salatu wa salam priait et il s'était trompé dans la salah, dans la lecture. Les sahaba disent que oui, mais l'erreur humaine dans la lecture, ça c'est humaine et c'est ba'd at-tabligh, après qu'il est propagé, après que les sahaba aient mémorisé et pris acte des wahi, de la révélation d'Allah azza wa jal. Donc ça c'est une petite parenthèse, on avait oublié de préciser la dernière fois, la protection du ma'na, du sens du Coran, la protection des versets que jusqu'à la fin des temps, personne ne pourra porter atteinte, mais également la protection des versets depuis la phase Jibril, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Ummah. Lorsque cette phase est dépassée, lorsque Jibril bien sûr a propagé, arrivé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a propagé à la Ummah, à partir de ce moment, même si, comme dans une salat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait oublié un verset, ça c'était quelque chose d'humain, d'accord, mais l'intégralité des versets avait été propagé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et toujours avec le verset et il ne garde pas avarement pour lui-même ce qui lui a été révélé. Les savants disent également, c'est pour ça qu'on a besoin de la lumière, le livre est écrit avec des écritures très fines, en français ou en arabe, donc si on n'a pas de lumière, c'est extrêmement difficile. Donc Allah récompense les responsables qui nous permettent d'utiliser donc la lumière de la masjid. Donc pour revenir à ce qu'on disait, le prophète n'était pas avare sur ce qu'Allah Rabbul Izzah l'avait révélé, et ça rejoint le verset « Ya ayyuhar rasoulu, balligh ma unzila ilayka min rabbik ». Allah Azza wa Jalla avait ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire le tablir, de propager tout ce qu'il avait reçu de la part d'Allah Azza wa Jalla. Et lors du pèlerinage d'adieu, lors du Hajjat al-Wada', le prophète alayhi salatu wa sallam avait abordé pas mal de thèmes, pas mal de sujets avec les sahaba, condition de la femme, la salah, et ainsi de suite. Et à chaque fois, le prophète alayhi salatu wa sallam demandait aux sahaba, « Oh sahaba, est-ce que vous attestez que j'ai propagé. » Ils attestaient que, ô prophète d'Allah, tu as tout propagé. Et les savants disent qu'il n'y a rien qu'Allah Azza wa Jal a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit des versets, ou alors ce qu'Allah a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le monde des âmes, ou alors le monde des vivants, le monde à la tombe, le monde de l'au-delà, ce qui va se passer après les étapes de l'au-delà, lorsque les gens seront dans le paradis ou les gens seront dans l'afia, dans l'enfer, tout ce qu'Allah Azza wa Jal avait révélé au prophète sallam, il l'a propagé. Soit c'était le wahy du Coran, donc il le propageait avec les termes, les mots qui sont ceux d'Allah Azza wa Jal, ou alors c'était notre catégorie de wahy, c'était un wahy, notre catégorie de révélation, je veux dire, une révélation par les ma'ani, par le sens, c'est ce qu'on appelle les hadiths. Le hadith, c'est ce que le Allah Rabbul Izza met dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans l'intermédiaire, on va dire, de l'ange Jibril alayhi salam, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va informer le sahaba, mais avec ses propres paroles. Et quand on dit que, on avait vu qu'il y a un verset qui dit c'est la parole de Jibril, un autre verset qui dit c'est la parole de cet homme, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais la différence, c'est que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va citer les versets, il va les répéter mot à mot comme l'ange, Jibril alayhi salam, l'avait révélé. Alors que pour les hadiths, il va retranscrire, il va donner le sens de ce qu'Allah Azza wa Jal avait mis dans son cœur. C'est pour ça que tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, c'était de la révélation, wahy de la part d'Allah. Comme le stipule le verset, « وَمَا يَنْتَقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى » Tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, c'était wahy. C'est pour ça que cet homme était parfait, c'est pour ça que cet homme ne se trompait jamais. Et tout ce qu'il disait sur la religion, ça venait de la part d'Allah Azza wa Jal. Et on avait vu la dernière fois également, ou alors la fois d'avant, peu importe, qu'est-ce qui fait qu'on peut dire, que personne plutôt ne peut dire que c'est la parole d'un homme, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On avait vu toutes les raisons. On avait vu qu'il y a des informations, il y a des versets miraculeux et ainsi de suite. Et on s'était plutôt attardé sur les versets miraculeux qu'un homme n'aurait pas pu inventer à cette époque, comme les versets qui décrivent l'embryon et ainsi de suite. Et il y a également certains versets qui résultent, leur révélation, résultent d'une question posée par des personnes. Et le prophète alayhi salatu wassalam ne répondait pas. Et il attendait la révélation de la part d'Allah Azza wa Jal. Quelqu'un peut me citer un exemple? Si je ne me trompe pas, c'est de la sourate Kahf. Mieux non, d'accord? Les kuffars avaient posé des questions, le prophète alayhi salatu wassalam avait attendu longtemps quand Allah Azza wa Jal, il a dit que oui, je vais vous répondre. Et Allah Rabbul Izzah, ensuite, après quelques temps, avait révélé les versets. Et les savants disent, voyez, à travers cet exemple, le prophète alayhi salatu wassalam a dû faire attendre son auditoire, qui n'était pas musulman, qui voulait en fait le tester. Il a dû les faire attendre, et de faire attendre les gens qui posent une question, est-ce que ça peut vous discréditer, oui ou non? Oui. Merci de le dire clairement, oui. Par exemple, quelqu'un me pose une question, il dit, cher, vous avez récité tel verset, mais quelle preuve que, par exemple, tel hadith, quel est le sanad, quelle est l'authenticité, quelle est la chaîne de narration? Si je ne réponds pas, si pendant 5 minutes je reste silencieux, qu'est-ce que vous avez pensé? Il dit quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Il est en train de citer un hadith qui est peut-être maudou, qui peut être inventé, qui peut-être n'existe pas, qu'il invente. Le silence discrédite la personne qui parle, la personne qui fait le bayan, qui propage. Mais le prophète alayhi salatu wa salam a préféré le silence. Il a préféré retarder la réponse parce qu'il attendait le wahi min Allah. Il aurait pu se dire qu'il faut donner rapidement une réponse, donc il apporte une réponse, na'oudhu billah, une réponse de lui-même. Mais non, ça ne se passe pas comme ça, parce que ça c'est la wahi, c'est la révélation de la part d'Allah Azza wa Jal. Et c'est ce qui fait que notre religion, mes chers frères, elle est parfaite, parce qu'elle vient d'Allah. Quand on a al-yawma akmaltu lakum dinakum, verset révélé le jour de Arafat, pendant le Hajj, en ce jour, votre din a été parachevé, c'est-à-dire complété, c'est-à-dire qu'il est parfait, il n'y a rien à rajouter, et il n'y a rien à retirer, à enlever. Et également, ce qui vous a été donné, qui vous a été révélé, c'est parfait. Ne changez rien, mettez ça en application, et vous aurez le contentement d'Allah, et vous aurez le paradis, incha'Allah. Parce que ça, c'est le mode d'emploi, excusez-moi le terme un peu moderne, c'est le mode d'emploi, c'est ce qu'Allah Azza wa Jal attend de chaque être humain. Ce n'est même pas les idées du prophète sallam. Parce que le prophète reste un être humain. Le prophète sallam reste un être humain. Si ce n'est pas les idées, ce n'est pas, na'oudhu billah, la philosophie du prophète sallam, ou alors sa vision du monde, la wallah, rien du tout. Ça émane directement d'Allah Azza wa Jal. Maintenant, si on veut se rendre compte de la chance qu'on a d'avoir la parole d'Allah entre nos mains, essayons de méditer sur la grandeur de la création d'Allah. On a déjà parlé de ça, qu'on essaye de méditer sur la grandeur de la création d'Allah, et jour après jour, on finit par découvrir que la création d'Allah, elle est plus grande que ce qu'on imaginait. Quelques jours, je lisais encore sur un site internet, ils ont découvert, c'était sur Arab News, voilà, hein, pour changer un petit peu, c'était en anglais, mais j'ai bien compris ce qu'ils voulaient dire, ils ont découvert je ne sais combien de planètes encore, de planètes en plus de ce qu'ils avaient déjà, de ce qu'ils pensaient, hein, que ça constituait l'univers. Ils en ont découvert je ne sais combien, et il dit que ces différentes planètes contiennent de l'eau. Et s'il y a de l'eau, il y a la vie. Donc ça remet en cause plein de choses. À un moment donné, ils finissaient par se dire qu'on est tout seul, d'accord ? Et certains peuples ici croient qu'ils sont tout seuls, donc ils imposent tout ce qu'ils veulent, mais ça c'est une autre histoire. On est tout seul dans l'univers, et là on se rend compte que, ah ben zut, il y a d'autres planètes qui contiennent de l'eau, donc qui sont peut-être habitées, il y a une autre forme d'intelligence, et ainsi de suite. Dernièrement, également la thèse de Darwin, d'accord, qui n'est pas Darwin, mais Darwin, qui a été remise en cause et bien ébranlée par certaines découvertes scientifiques. Et il y avait également un troisième article. En 10 jours, il y a eu 3 choses qui a cassé tous les scientifiques. Une nouvelle thèse, ça je n'avais pas trop compris, c'est un truc un peu compliqué, concernant les planètes, ça c'était un niveau un peu supérieur, j'ai fait juste un copier-coller, mais je n'ai pas compris qu'est-ce qu'il voulait dire. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'un scientifique, ils ont des divergences sur les Big Bang, barakallahu fik, d'accord, sur les Big Bang. D'accord, ils ont des divergences dessus. Il y a deux ikhtilaf, hein, ils ont ikhtilaf contre eux. Il y en a qui disent oui, on garde la première thèse. D'autres disent non, maintenant il y a une autre thèse, et ainsi de suite. Et il y a un scientifique qui finit par cracher qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas. Il a dit qu'il y a tellement de thèses qu'on a inculquées aux gens et qui étaient à 99% faux. Il y a tellement de thèses qu'on a inculquées aux gens. Et après des années de recherche, de découverte, on se rend compte que cette thèse scientifique était à 99% erronée. Et tout le monde y a cru, parce que c'était nous les scientifiques, et on avait compris que le monde fonctionnait de cette façon, mais quand on avance, on découvre d'autres choses, on se rend compte qu'on s'était trompé. Donc, subhanallah, il y a des signes comme ça qui montrent à l'homme la limite de son intelligence, et que tout vient d'Allah. Et donc, quand on revient à ce que je disais, l'idée première, on médite sur la grandeur de la création d'Allah, le monde animal, le monde végétal, subhanallah, on n'a pas besoin de citer tous les exemples, on se dit comment Allah est parfait, comment Allah est puissant, comment Allah est grand, d'accord. Maintenant, ce Allah, Rabbul Izza, sa parole, elle est avec nous. Et Allah a garanti que la parole qu'il nous a accordée, sa parole, kalamullah, il restera intact et protégé jusqu'au qiyamah. Maintenant, celui qui a envie d'en profiter, qu'il en tire profit. Celui qui ne veut pas en tirer profit, qui veut tourner le dos au Coran, qu'il tourne le dos au Coran, mais après de l'au-delà, il n'y aura strictement rien pour lui. D'où le verset qu'on va lire dans un instant. « Liman sha'a minkum ay yastaqim. Pour ceux qui veulent, on va voir la traduction, pour ceux qui parmi vous veulent rester dans le droit chemin. Parce que celui qui veut rester dans le droit chemin, il fera des efforts. Celui qui ne veut pas rester dans le droit chemin, celui qui va aller vers les péchés, celui qui veut écouter son nefs, ses pulsions, ses hawa, ses instincts, et ainsi de suite, ben il écoute ce qu'il a envie d'écouter. Bas. Et la guidée en finalité est dans les mains d'Allah Azza wa Jal, mais elle va démarrer avec iradatun nas, avec le nia, l'intention qu'on va faire, avec l'effort qu'on va faire. Mais ça, c'est une mathématique qu'on va voir dans un instant. Donc, nous, on voulait insister sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait tout propagé, et donc nous sommes sûrs que tout ce qu'Allah Azza wa Jal voulait pour cette umma a été accordé à cette umma. Toutes les informations qu'Allah Rabbul Izzah avait décrétées pour cette communauté, on les a tous eues parce que le prophète alayhi salatu wa sallam était Al-Amin, l'homme de confiance, le véridique, depuis avant la révélation, et après la révélation, il est devenu encore plus, et il a donc tout propagé de la part d'Allah Azza wa Jal. Et ça, par exemple, ce verset-là, ça remet en cause complètement les thèses de certains groupes. Selon ces personnes-là, il y aurait des informations de le Coran qui ont été effacées. Il manque des versets de le Coran. On a tous compris de quoi on parle. Et donc, concernant certains sahabes, salam wa barakatuh, les vertus de certains compagnons, ainsi de suite, et des personnes qui sont très attachées à la personne de Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu. Et ils ont la certitude que Ali avait eu une science, avait eu des informations de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam que personne d'autre n'avait eu. C'est ce qu'on appelle mubalagha, le roulou, l'exagération. On va voir dans un instant quel est le juste milieu en ce qu'on appelle al-ifrat wa al-tafrit, l'exagération ou alors le manquement. On voit qu'à l'Sunna, on est wasat, le juste milieu, mu'tadil. Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata, la communauté du juste milieu. Et donc, on avait posé une fois, quelqu'un, un sahaba, avait posé une fois la question directement à Zat Ali, avant qu'il y ait eu ces shubahat, avant qu'il y ait eu ces doutes, bien sûr, à l'époque des sahaba. À l'époque des sahaba, il n'y avait pas ces problèmes-là, d'accord? Et donc, ils avaient posé cette question. Il y avait une blague qu'on voulait faire, mais bon, ça c'est un petit peu machin. Il avait posé la question à Zat Ali, radiallahu anhu, il avait dit que, est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il t'a déjà dit des choses qu'il ne nous a pas dit à nous? Il a dit que je jure que tout ce que j'ai eu de la part du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont des choses que vous avez déjà eues vous aussi. Sauf, alors on a peur, sauf une parole qu'il avait dit, il m'avait dit, et que j'ai écrit sur un parchemin et que je garde le fourreau de mon épée. Le fourreau, c'est quoi? Il n'y a plus d'épée de nos jours, hein. Je garde donc le fourreau de mon épée. Donc il a tiré ce papier et c'était écrit des conseils général, comme l'obéissance envers les parents, c'est-à-dire des choses qui sont ma'loum fi din bid-daroura, des choses qui sont connues, des choses de base dans la religion. Et avec ça, les savants disent, voyez, Ali ibn Abi Talib atteste lui-même qu'il n'a eu aucune exclusivité, mais aucun sahaba n'a eu une quelconque exclusivité avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a fait le tablir, la propagation de tout ce qu'Allah azza wa jal lui avait donné. Il a donc propagé aux sahaba, et les sahaba, ils ont fait leur travail, et ils ont propagé, jusqu'à ce que ça arrive à nous. Donc ça, c'était à propos du verset وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ. Ensuite, وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ. Et ceci, c'est-à-dire le Coran, n'est point la parole d'un diable banni. Alors, on avait vu que c'est la parole d'Allah, on a vu que c'est la parole transmise par l'ange Jibril alayhi salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça a été qualifié de parole de l'ange Jibril, c'était qualifié de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est lui qui transmet aux sahaba. Et donc là, de ce verset, on écarte les doutes que c'est quelque chose de béni et ça ne vient pas des shayatines. Maintenant, je pose la question, quelle est la différence entre le wahi et les paroles des shayatines? Tous les deux viennent du ciel, lui ou non? Oui, tous les deux viennent du ciel. Mais excusez-moi, le fait de mettre les deux termes dans la même phrase, c'est déjà un manque de respect certainement. Le wahi, c'est la parole d'Allah, révélée comme on a expliqué, et c'est 100% haqq. Alors que les paroles de shayatin viennent du ciel. Ils viennent des diables, des shayatin qui écoutent les paroles que les anges se transmettent. Parce que lorsqu'Allah Azza wa Jal décrète quelque chose, il ordonne aux anges et les anges se transmettent l'information. Et les shayatines écoutent. Et lorsqu'ils entendent l'information, ils vont le rapporter aux personnes qui ont fait des pactes avec eux. Et lorsque les anges voient ces shayatines, ils les chassent avec donc des boules de feu. Et il y a des fois où le shaytan, il entend une fraction, un morceau de ce qui est dit, il n'entend pas l'intégralité, ce qui fait qu'il va rapporter et il va greffer 1000 mensonges. Il va rajouter 1000 mensonges aux quelques paroles qu'il a entendues. C'est pour ça qu'il y a des fois quelqu'un dit « Tu me dis où ?»« Ma part, tu vois tel monde, il paraît, il y connaît plein de choses. » Je suis arrivé, on va continuer en français, je suis arrivé auprès de cette personne, il m'a dit tout de suite « Toi, je sais pourquoi tu viens me voir. Toi, tu as un problème. Toi, tu as un problème avec ton travail, avec ta femme. Elle a fait ci, elle a fait ça. » Il dit qu'il a dit tous mes problèmes. Il dit « Ce gars-là, il est incroyable. » Il est vraiment un grand savant, il connaît plein de choses, ainsi de suite. Tout simplement parce qu'il y a des pactes avec des diables, des shayatines, ce qui fait qu'il connaît des choses sur vous. Et bien également, ça c'est le contre-exemple maintenant. Le contre-exemple, c'est l'histoire de qui était racontée par, je ne sais plus si c'est Cheikh Alifi ou un autre cheikh. Il expliquait que, subhanallah, il y avait donc un petit comité de savants qui avait pour but de lutter contre les sorciers, les Sahara, d'accord ? Les gens donc qui faisaient du mal aux autres personnes. Il dit que quand ils ont vu l'endroit où se cachait, l'endroit où se cachait une de ces personnes, il a dit que voilà, ils ont fait une descente, il y avait un cheikh, un alim, accompagné donc des forces de l'ordre. Il dit que voilà, on est parti chez cette personne, et la personne était étonnée, comment est-ce que vous avez pu venir jusqu'à chez moi ? En fait, ce n'était pas le problème d'adresse ou pas un problème de GPS ou autre chose. Il a dit que normalement, s'il y a une menace qui arrive vers moi, mes shayatines me préviennent. Ils sont dans la rue, ils voient, ils me préviennent et moi je m'en vais. Pas mal, hein, c'est un petit truc issu de secours et puis il s'en va. D'accord, c'est un système. Et il dit comment ça se fait qu'ils n'ont pas pu me prévenir, ils ne m'ont pas prévenu. C'est une musique ça ou quoi ? Khair, Inch'Allah. Et donc il dit que le cheikh a dit c'est très simple. Mais après, ça c'est un niveau de yaqin aussi. Hein. Il dit, quand j'ai quitté chez moi, j'ai lu, « Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. » Des phrases, des doigts de base, des doigts qui ne nécessitent pas, mashallah, beaucoup de science, mais avec une certaine conviction, il dit que tout est dans les mains d'Allah. « Wa la hawla wa la quwwata » et personne ne peut faire quoi que ce soit sans l'ordre d'Allah. Ce qui fait que tout ce que tu as mis en place comme stratagème, tout ça, est-ce que c'était plus fort, na'oud billah, est-ce que c'était supérieur à la force d'Allah? Abadan, jamais de la vie. Comme moi j'ai une conviction totale en Allah, je me suis mis sous la protection d'Allah. C'est pas simple ça, hein? Je me suis mis sous la protection d'Allah et je sais que j'avance avec la protection d'Allah, ce qui fait que tout ce que tu as mis en place comme stratagème diabolique, dans les deux sens du terme, n'ont pas pu me toucher, me porter atteinte, d'accord ? Et ils ont été aveuglés, on pourrait dire comme quand le prophète est sorti pour la hijra et que les gens étaient là ébahis, n'ont rien vu, et je suis venu jusqu'à toi tranquille, comme une lettre à la poste, on pourrait dire, et donc tout ce que tu as mis en place ne m'a pas perturbé parce que j'ai mis ma confiance en Allah. Donc, quelques petites anecdotes pour comprendre donc la différence entre ce qui vient des shayatines, des paroles erronées qui viennent des shayatines, rien à voir donc avec le wahi qui vient de la part d'Allah Azza wa Jal. On va aller un petit peu plus vite parce qu'on s'est promis de terminer et on ne doit pas dépasser 30 minutes aussi, Inch'Allah. Au moins, on facilite les personnes qui doivent fermer la masjid. Où est-ce qu'on est ? وما هو بقول الشيطان الرجيم فأين تذهبون où allez-vous donc? Ça c'est wa'd, ça c'est une mise en garde, mais ces personnes qui ne croient pas, ces personnes qui vont dans n'importe quel sens, فأين تذهبون, où est-ce que vous allez comme ça? Et cette phrase أين تذهبون, les savants disent que ça peut concerner les gens qui n'ont pas iman en Allah, mais on pourrait également interpeller quelqu'un qui a la foi en Allah mais qui va se perdre dans le haram, dans le péché. Une personne qui ne connaît pas Allah, qui ne connaît pas le droit chemin, qui ne croit pas à l'existence du paradis et de l'enfer, parce qu'il a été éduqué malheureusement de cette façon, il a dévié de la fitra après sa naissance, il a été éduqué de telle façon, on va dire que miskin, il n'a pas eu la hidayah. Le pauvre n'a pas eu la guidée. Mais quelqu'un qui a eu la guidée, Allahu Akbar, quelqu'un qui est né, on est tous nés à la fitra, quelqu'un qui a été élevé par une famille de musulmans ou qui a eu la guidée par la suite, d'accord ? Maintenant, la personne, il est conscient qu'il y a la mort, il y a la vie après la mort, il y a la résurrection, il y a tout ce qui construit nos croyances, et que la personne continue à s'enfoncer dans le haram. Les jours passent, la personne ne prie pas. Les jours passent, la personne ne se fait pas de soucis pour la mort, comment il va rencontrer Allah, et ainsi de suite. Mais on pourrait dire à ces gens aussi, fa'ayna tadhhabun, où est-ce que tu vas, mon frère? Tu attends quoi de la vie? Quel chemin tu es en train de prendre? Fa'ayna tadhhabun, in huwa illa dhikrul lil alamin, ceci n'est qu'un rappel pour l'univers. Quand on dit ceci, on parle du Coran. Et le Coran est réellement un rappel pour l'alamin, un rappel pour l'univers. Alors, si on trouve le verset, bismillah. Oui, et ça rejoint. Alors, le Coran est un rappel, et le terme rappel, c'est également une source de rahma, une source de bénédiction pour les mondes. Parce que le Coran constitue la vie des cœurs, la vie et ce qui va nourrir le iman et qui va rapprocher la créature de son créateur. Ce n'est pas pour rien que le prophète a spécifié que je vous ai laissé deux choses, hadith qu'on cite 40 fois par an, je vous ai laissé deux choses, restez accrochés, si vous restez accrochés, jamais vous ne serez perdus, kitabullahi wa sunnati, le livre d'Allah et ma sunnah. C'est-à-dire que celui qui s'accroche au Coran, à la parole d'Allah, celui qui s'accroche ensuite à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ben, c'est un najah pour lui. C'est le succès. C'est la garantie qu'il aura le contentement d'Allah. Imaginez quelqu'un qui doit trouver sa voie. Imaginez le calvaire des philosophes. Attends, franchement, nous on a fait les philosophies 8 heures par semaine quand on est en terminale, mais on se disait qu'ils vont dans tous les sens. Ils font un trajet qui est plus compliqué que l'avion malaisien à Airlines. Plus compliqué à suivre. On ne sait pas où ils vont. Ils commencent à méditer sur la vie, pourquoi je suis né, qui suis-je, où vais-je, et tout. Dit, Akhi, tu as été créé de terre, Allah t'a créé pour faire son adoration, et en finalité tu meurs, tu retournes auprès d'Allah, il te juge, et tu accèdes au paradis ou en enfer. Voilà, en 15 secondes, j'ai résumé ta vie de philosophie, Akhi. Ne te casse pas la tête. Ne te casse pas la tête avec toutes ces thèses de Descartes et des cartésiens, et ainsi de suite. Avec Platon, avec tous ses potes, et ainsi de suite, les Hegel, et ainsi de suite, ce qui nous revient un peu à l'esprit. Le chemin est tracé. Imaginez cet homme qui doit trouver sa voie de lui-même, avec sa logique, avec son intelligence. L'homme qui, lorsqu'il se réveille le matin, doit observer la nature et essayer de déduire, est-ce qu'il y a une force supérieure ou il n'y a pas de force supérieure? Est-ce que si je marche et je tombe, c'est prédestiné ou c'est moi qui a fait le choix? Le temps où réfléchis, hein, le temps où tu commences à comprendre tout ça, voilà, si tu as 45 ans, 50 ans, l'ange de la mort arrive, il reprend ton âme, tu es toujours en train de réfléchir. C'est comme si quelqu'un te chauffe son moteur, il n'a même pas fait un mètre. Alors que nous, subhanallah, il y a tout ce qui concerne la vie. Le Coran, c'est une bénédiction pour l'homme. Parce que tu prends les versets, tu les mets en pratique. On avait dit, je ne sais pas ici ou ailleurs, même si quelqu'un prend un verset, il médite ce verset, il le met en pratique à fond, il trouve le droit chemin. Chaque passage du Coran est une roue de secours, on va dire, une bouée de sauvetage pour l'homme, quel que soit l'endroit où il vit, quelle que soit l'époque également où il vit. Car le prophète a dit, « L'antadillou abada, vous ne serez jamais égaré. » Et jamais, c'est même dans les périodes les plus sombres de l'histoire de la Oumma, où il y a le plus de fitna. Même à l'époque de Dajjal, il faudra se raccrocher à quel verset? Al-Kahf. Qui c'est qui a le Kahf aujourd'hui? Bismillah. Qui a le Kahf aujourd'hui? Aïb. Celui qui n'a pas lu. Allahu Akbar. Prochaine fois, il faut lire, Inch'Allah. Ça, c'est une sunnah. C'est pour ça, une fois, il y avait devant le sahaba, qui c'est qui a fait telle action? Qui a fait ça? Et puis Abu Bakr, c'est le premier de la classe. Qui a rendu visite à un malade? Abu Bakr lève le doigt. Qui a assisté à un maillet, Abu Bakr lève le doigt. Qui a donné sadaqa, Abu Bakr lève le doigt. Qui a donné à manger à quelqu'un, qui a jeûné ce matin, et ainsi de suite. Sahaba, il regarde, il dit, bon ben, c'est bon. Hein. Il a champion de France, coupe de la Ligue, Ligue des champions, coupe des coupes, coupe des... comment, intercontinental, intergalactique, il a tout. Subhanallah. Et vous trouvez encore des gens qui insultent Abu Bakr. La hawla, wa la quwwata illa billah, la hawla, la quwwata. Donc, même à la fin des temps, à l'époque de Dajjal, il faudra se raccrocher à Al-Kahf, pour les raisons que l'on avait déjà citées avant. Bref, donc, c'est un salut, ça, pour l'humanité. C'est comme on a dit, si on devait trouver la vérité de nous-mêmes, on serait tous perdus. Allah nous a tracé le chemin depuis la naissance jusqu'à la mort à travers le Coran et à travers les paroles du Prophète qui sont donc les hadiths, qui sont les commentaires du Coran. Donc, avec ça, il n'y a pas besoin de dire, on sait exactement où on va, où est-ce qu'on va avec le chemin tracé par les paroles d'Allah Azza wa Jalla. Et ça, ça rejoint le verset وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. La sunna, maintenant le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, est une bénédiction pour les deux mondes. Le Coran est une bénédiction et la présence du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa présence physique, ses paroles, son gestuel, tout ça c'était une bénédiction pour Al-Alamin, pour les mondes. Il y avait d'autres choses à dire là-dessus, mais on veut Inch'Allah avancer et compléter At-Takwir ce soir Inch'Allah. Et là, il y a le grand verset, et là, on va pas trop rentrer dans le détail parce que c'est un masla de taqdir, de croyant, de sur le destin. On a déjà abordé dans Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Donc, le but, c'est pas de revoir tous les principes à chaque fois. Autrement, on pourra jamais compléter juz'amman. C'est l'objectif avant Ramadan, Inch'Allah, de compléter, Inch'Allah, juz'am. Donc, liman sha'a minkum an yastaqim. Ceci n'est qu'un rappel pour l'univers, on l'a dit tout à l'heure, pour celui d'entre vous qui veut suivre le droit chemin. Et on va compléter et puis on va expliquer tout en même temps. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Mais vous ne pouvez vouloir, Adib ça, mais vous ne pouvez vouloir que si Allah veut lui, c'est-à-dire que si Allah veut lui le Seigneur de l'univers. Alors, لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ. En commentaire, on fait dire وَأَمَّا مَلَّا يَشَاءُ الْإِسْتِقَامَةَ فَإِنَّهُ لَا يَتَذَكَّرُ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا يَنْتَفِعُ بِهِ. Dit que le Coran, on l'a vu, c'est une source d'inspiration, une source de guider pour les mondes, pour les mondes. Mais ensuite, il y a une précision, لِمَنْ شَاءَ, pour ceux qui veulent être bien guidés. Dit que celui qui recherche le haqq, celui qui recherche la vérité, trouvera la vérité de le Coran. Ça veut dire que tout démarre du cœur, de l'intention. Celui qui est rempli de bonne intention, il veut trouver le haqq, il veut trouver le droit chemin, qu'il s'inspire du Coran et il trouvera tout. Maintenant, une personne, n'y a-t-il pas eu, parce que le Coran n'est pas non plus une parole magique que lorsque quelqu'un l'entend, il devient croyant immédiatement. Non, autrement, le monde entier serait musulman, on aurait mis des haut-parleurs et ainsi de suite. Tous ceux qui entendent les versets du Coran deviennent musulmans. Ce n'est pas le cas. Est-ce que, à l'époque, je crois, n'y avait-il pas des mouchriquines de Quraysh, à Makkah même, qui n'avaient pas accepté l'islam? Lorsque les personnes étaient venues voir le Prophète pour lui dire d'arrêter la da'wa, le Prophète avait lu les surahs, les versets de Hamim, qui sont ressortis, on avait expliqué ça la dernière fois, sont ressortis ébahis. Dit que j'ai entendu, on a entendu des paroles qui ne sont pas des paroles d'un être humain. Mais ils n'ont pas eu la guidée là, immédiatement. C'est-à-dire qu'ils ont entendu, mais dans leur cœur, ils ne recherchaient pas la guidée. Ils voulaient combattre, ils voulaient lutter contre ces paroles. Donc, ces paroles-là n'ont pas été bénéfiques pour leur cœur. Alors que Al-Madina, lorsque Moussa bin Umair, radiallahu anhu, était assis avec des sahaba, si je ne me trompe pas, c'était soit Usaïd bin Khudair ou alors Sa'd ibn Ma'ad. Un entre les deux. Il y avait donc des gens, des ouama, des chefs de tribu qui s'étaient approchés pour savoir qu'est-ce qu'ils sont en train de dire. Mais ils n'avaient pas la mauvaise intention. Ils ont écouté, ils ont été séduits par les paroles et ils ont lu la shahada, ils ont accepté l'islam. Donc celui qui recherche la vérité, lorsqu'il lit le Coran, il le trouvera. Et dites-moi, tout le monde doit connaître au moins un cas d'une personne qui n'était pas musulmane et qui dit que j'ai trouvé la guidée en lisant le Coran chez moi. Combien de cas il y a ça? Des gens qui se convertissent uniquement en lisant le Coran en français ou quelle que soit la langue. C'est des gens qui, à la base, sont animés de bonnes intentions, des gens qui sont à la recherche. C'est pour ça que quand on a affaire à des gens qui viennent nous voir, qui disent que voilà, je suis en train d'étudier la religion, je ne sais pas encore vers quelle religion m'orienter, mais je recherche. Moi, je dis à ces personnes, et c'est un collègue qui avait expliqué ça à quelqu'un, et j'ai retenu, je trouvais que la leçon était bien, dit que le soir, avant de te coucher, lève les mains, et tu dis, ô Dieu, où que tu sois, comment tu t'appelles, tu sais que je recherche la vérité, fais-moi voir la vérité. montre à ce Seigneur qui est au-dessus de toi que tu le recherches. Et Inch'Allah, il te montrera le droit chemin. Donc il y a des gens comme ça qui disent que j'ai lu le Coran, le Coran en français, et j'ai trouvé une lumière, et j'ai vu quelque chose, j'ai accroché immédiatement, et c'est pour ça que je me suis converti. C'est ce miracle du Coran qui existe jusqu'à maintenant. Est-ce que vous avez déjà vu une personne qui lit un livre de philosophie, une philosophie particulière, qui dit que en lisant ces thèses philosophiques, j'ai adhéré immédiatement? Déjà, il aura beaucoup de mal à comprendre. Il faut un prof de philo qui vous explique, qui fait des commentaires et ainsi de suite. Après, on peut avoir une approche, d'accord? Mais le Coran, c'est ce qui est magnifique, c'est que tout le monde trouve son compte dans le Coran. On avait expliqué ça, Allahu Akbar, au tout début, quand on avait commencé tafsir en introduction, une parole d'un savant qui était magnifique. Il dit que le grand alim, il trouvera ce qu'il recherche dans le Coran, et le musulman lambda, c'est-à-dire qui ne connaît pas grand-chose, il va trouver aussi quelque chose qui l'intéresse. Il lit des versets, il va trouver des paroles qui vont le toucher. Ce n'est pas comme si que, par exemple, là je vous donne une encyclopédie de chirurgie, je ne sais pas, cellulaire ou des nerfs. Des trucs vraiment complexes, hein, en médecine vraiment pointilleuse. Je dis à 20 personnes de lire, qu'est-ce que vous comprenez? Même pas une phrase. Il dit, je peux rien tirer de ce livre, c'est un niveau supérieur. Alors que le Coran, c'est le niveau supérieur, l'homme extrêmement investi dans la science religieuse, il va trouver des choses exceptionnelles. Et celui qui n'a aucune connaissance, il va trouver lui aussi quelque chose d'exceptionnel. Il va trouver ce qu'il a besoin. Chaque personne qui ouvre le Coran trouve la lumière. Et ça fait partie du caractère miraculeux du Coran. Ce qui peut paraître incohérent, soit c'est un discours de haut niveau et c'est réservé à des intellectuels, soit c'est un discours basique, et quand, lorsque l'intellectuel lui va lire, il va trouver ça, bon, très basique, ça ne l'intéresse pas. Non, c'est comme si là je vous donne un livre de Martine, vous connaissez, c'est une petite fille Martine, hein? Ben, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas lire ça, c'est une perte de temps. Et on donne ça à un ingénieur ou un docteur à l'université, il va dire, attendez, vous me faites perdre mon temps là, d'accord? Alors que le Coran, le musulman basique, il trouve la lumière, il est émerveillé, il a des larmes qui coulent quand il lit, et le grand cheikh de l'islam, cheikh de hadith, et ainsi de suite, le mufti, lorsqu'il lit, il trouve des paroles magnifiques, il pleure aussi, tout le monde trouve la lumière qui lui va dans le Coran. Ça ne peut se trouver que dans Kalamullah, dans la parole d'Allah Azza wa Jalla. On va s'arrêter là ce soir, parce que je ne veux pas bâcler non plus ces deux versets. C'est quand même important. Les mancha amin kumani yastaqim, ça parle du istiqama et ça parle de al-mashi'a. Al-mashi'a, c'est le désir. D'accord? Et Inch'Allah, on va continuer ça la prochaine fois. On va voir la relation qu'il y a entre le fait de rester dans le droit chemin et l'envie d'être dans le droit chemin. On va essayer de voir également, est-ce que nous décidons de l'orientation de nos vies, ou alors tout est prédestiné. Le grand masla, la grande divergence entre les Jabariya et les Qadariya, deux sectes qui se sont égarées après l'époque d'Ibn Abbas, ceux qui disent qu'il n'y a pas de destin, parce que s'il y avait un destin, si tout était prédestiné, dans ce cas, le pécheur, il aurait eu son péché prédestiné, ça aurait été une injustice de la part d'Allah Azza wa Jal. Et d'autres qui disent que non, il y a un destin et personne ne peut échapper à son destin. Le fatalisme opposé à la négation du taqdir. Tout ça parce qu'ils se sont basés sur al-aql, l'intelligence. Ils ont essayé de décrypter une branche de la foi, al-iman bil-qada'i wal-qadri. Ils ont essayé de décrypter, de comprendre une branche de la foi en ayant recours à leur logique, à leur esprit cartésien qui était plus cartésien que cartésien. Et ils se sont complètement fourvoyés, complètement trompés. Il y en a ceux qui ont été dans l'extrême négation du destin, parce que quand on parle de destin, il y a la notion, il y a le sentiment d'injustice aussi. Hein, quand on ne va pas trop loin, et quand on va, donc ils vont renier le destin. Et quand l'autre groupe, ils ont vu que eux, ils renient le destin, on va dire que non, il y a un destin et on échappe pas. Quand il y a un destin, c'est comme ça. Si c'est prédestiné, tu fais le zina, tu fais le zina. Si c'est prédestiné ce soir, tu fais la qiyamul-layl, tu fais qiyamul-layl. Basse. Et les deux camps se sont complètement trompés parce que ils ont eu recours au aql, à l'intelligence, et non pas au texte. Et ça, c'est malheureusement un merveilleux contre-exemple, excusez-moi, hein, de perdition, quand l'homme s'écarte des textes uniquement pour se baser sur l'intelligence, parce que un cerveau humain ne peut pas comprendre ce qu'Allah a révélé. Inch'Allah, on va développer ça. On voulait bâcler, mais on ne le fera pas. On va expliquer ça, Inch'Allah, la prochaine fois. Et notre objectif, Inch'Allah, Rabbul Izzah, c'est de compléter le Juz Amma avant le mois béni de Ramadan. Huma tawfiq illa billah. Et pensez par rapport à l'événement d'avant-hier, ayez une pensée pour Cheikh Maulana Shabir, qui est décédé, qui nous a quitté, un savant, un alim, un khatib, quelqu'un qui était qui avait, mashallah, un niveau de science, un niveau de connaissance, qui a été reconnu enseignant donc à la masjid, à la madrasa donc de Saint-Denis, ta'alim al-islam, et imam à la grande mosquée Nour al-islam de Saint-Denis, quelqu'un qui, mashallah, avait, comme on a dit, un quota de ilm, de science. Il nous a quitté, et ça, c'est la décision d'Allah Azza wa Jal. Et ça nous rappelle ce que Aïcha radiallahu anha avait dit, également Ibn Mas'ud radiallahu anhu avait dit. Ce sont des citations. Il dit que lorsqu'un savant, déjà c'est un signe de qiyama, c'est un signe de qiyama, la mort des savants. Et ça, c'est quelque chose de ajib, ça. Il dit que inna Allah la yaqbidu al-ilm intiza'an yantazi'uhu min sudur ou alors min qulub al-ulama. Allah Rabbul Izzah ne reprend pas la science du cœur des croyants, des savants. Mais Allah reprend la science, que la disparition de la science religieuse fait partie des petits signes de qiyama. En yurfa'a al-ilmu wa yathbut al-jahl. Que la science soit reprise et que l'ignorance va prédominer. Ça, c'est un petit signe de qiyama. Donc ça, c'est une thématique. Maintenant, Allah, Rabbul Izzah, comment on comprend que la science s'en va? Allah ne reprend pas la science. Pas quelqu'un du jour au lendemain, il ne connaît plus rien, il a oublié tout ce qu'il a appris. Non. C'est qu'Allah reprend la science. De quelle façon? En reprenant les savants. Et le prophète, alayhi salatu wa sallam, dit dans un hadith que les meilleurs parmi vous vont quitter ce monde, en ce sens, hein, les uns après les autres. Le prophète sallam était une fois avec les sahaba, ils étaient en train de manger des dattes. Et il restait donc à la fin que les graines, nawat, de date. Le prophète a demandé aux sahaba, comment est-ce que vous interprétez ce que vous voyez? Sahaba, ils ont dit au prophète d'Allah, on ne sait pas, hein, donne-nous des explications, Allah wa Rasulu A'lam, dit que voyez, qu'est-ce qui reste après ce qu'on a mangé? Il reste juste des choses qui n'ont plus de valeur. D'accord, on a mangé ce qui devait être mangé, et ce qui reste n'a pas de valeur. Et de la même façon, les choses, les meilleurs vont partir, et à la fin, il va rester exactement comme ces graines, hein, ces noyaux de dattes qui n'ont plus de valeur, qui ne servent à rien, mais qui n'ont pas de valeur. D'accord? Donc, à la fin des temps, Allah Azza wa Jal va reprendre al-khiyar, al-akhiyab, les gens qui ont le plus de valeur pour lui. Donc, la mort des savants, ça concrétise ces petits signes de qiyama. Ce petit signe de Qiyama qui est la disparition de la science religieuse. Et donc, pour reprendre ce qu'on avait dit, les paroles d'Ibn Mas'ud, et Aïcha radhiyallahu anha dit que lorsqu'un savant quitte ce monde, il quitte ce dunya et il emporte avec lui le ilm qu'Allah Rabbul Izzah lui avait accordé. Il dit que lorsqu'un savant, un alim, quitte ce dunya, ça fait comme une brèche de la Ummah. C'est comme si que, là c'est moi qui retranscris, c'est comme si vous avez une construction et vous avez enlevé une brique. D'accord, il y a un trou qui va rester, il y a une brèche qui va perdurer jusqu'au Qiyam. Et ça ne sera jamais remplacé. Un savant qui quitte ce dunya, il emporte la science qu'Allah lui avait donnée, et ça ne sera jamais remplacé. Pas de la même façon. Donc on doit comprendre que quand la Ummah perd un alim, c'est la Ummah qui perd un alim. Ce n'est pas une famille qui perd. Ce n'est pas un quartier qui perd. Ce n'est pas une ville. D'accord? On doit être affecté quand c'est quelqu'un de Saint-Denis, on doit être affecté quand c'est quelqu'un du Tampon, de Saint-Pierre, de Maurice, de Madagascar, de Mayotte, en Afrique, en Indonésie, en Inde, au Pakistan, ou en Arabie, quel que soit l'endroit, un savant meurt, c'est la Ummah qui a perdu un Warthatul Anbiya, un héritier des prophètes. Donc on doit être attristé pour ça, et nous devons, Inch'Allah, faire doigt, d'autant plus que là il y a une proximité, c'est quelqu'un de notre ville, qu'Allah Rabbul Izzah illumine sa tombe, que son qabr soit rawdatun min riyad al-jannah, un jardin parmi les jardins du paradis, et que de ce jardin du paradis, Allah Azza wa Jal lui fait voir la place qui lui est réservée dans le jannah, et qu'il repose donc en paix jusqu'au mahshar, et qu'il soit ressuscité ma'an nabiyyin wa siddiqin wa shuhada wa salihin, et qu'Allah lui accorde son livret de compte dans la main droite, et qu'il lui fasse accéder, Inch'Allah, au jannah, lirait des hisab, et qu'Allah Azza wa Jal accorde sabrun jamil à ses proches, à ses enfants, à son épouse et à ses parents, Inch'Allah, et qu'Allah Rabbul Izzah un jour les réunit tous dans le Jannah, Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyatihim, qu'Allah leur accorde à tous ces qualités de wa man salaha, ils auront donc les qualités, Inch'Allah, pour accéder au Jannah. Lorsque les gens seront dans le Jannah, ils auront tous l'âge de Adam alayhi salam, ils auront 33 ans, c'est le summum de la santé, le summum de la santé, du bien-être, et mashallah, ce sera un moment exceptionnel. En plus d'avoir le bienfait, le ni'ma du paradis, en plus de ça, il y a la possibilité de se retrouver. C'est-à-dire, ça, c'est al-fawz al-azim. C'est le plus grand succès que d'être conscient, de voir que j'ai réussi, ma femme a réussi, mes enfants, mes parents, toutes les personnes que j'aimais ont réussi le passage sur la terre et ils sont avec nous. On est tous ensemble dans le Jannah. Qu'Allah Rabbul Izzah leur accorde cet honneur et nous accorde à nous tous aussi, Inch'Allah. Jazakumullah khair. Subhana rabbika. رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.